Le témoignage part du cœur. C'est comme cela que j'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui, de ce matin. Le témoignage, nous aimons en parler dans nos églises évangéliques. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous insistons sur le fait que nous sommes aussi témoins de lui, témoins de son amour dans notre vie, témoins de la paix qu'il nous donne. Mais peut-être qu'avec les années, notre témoignage n'est plus issu de notre cœur. Est-ce que ce que nous disons de Jésus, nous le vivons toujours ? Le témoignage part du cœur. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande de faire, c'est d'abord d'être. Est-ce que nous avons cette passion de parler, de dire ce que Jésus a fait dans notre vie? Est-ce que cela part du cœur? Je vais vous raconter une histoire que j'ai relue encore il n'y a pas longtemps. C'est une histoire qui se passe dans un contexte très difficile. C'est le contexte des camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment donné, dans un des baraquements à Auschwitz, un prisonnier manquait à l'appel. Et les Allemands avaient l'habitude, pour un prisonnier qui manquait à l'appel, c'est-à-dire probablement qu'il y avait une tentative d'évasion ou une évasion, avaient l'habitude d'exécuter 10 hommes pour un qui manquait à l'appel. Et ce jour-là, donc, ils font l'appel, et les hommes doivent s'avancer, et c'était pour leur exécution. Et quelqu'un ose prendre la parole, ce qui d'ailleurs pouvait être puni de mort aussi, tout simplement parler. Quelqu'un dit, est-ce que je ne peux pas prendre la place d'un homme qui s'était avancé et qui pleurait, qui avait sa femme et ses enfants dans d'autres baraquements? Et contre toute attente, sa demande a été acceptée. Et ils ont été enfermés dans un sous-sol, et puis en fait, ils étaient laissés sans eau, sans nourriture, et c'est comme ça qu'ils devaient mourir. Et donc l'homme qui a cédé sa place, d'ailleurs lui n'était même pas mort au bout des 10 jours sans eau, sans nourriture, il a été tué après, mais l'homme qui a été sauvé grâce à cet homme qui a donné sa vie pour lui, il a dit, je ne pourrais pas mourir et il ne pourrait pas se passer un seul jour dans ma vie où je me souviens de ce que cet homme a fait pour moi parce qu'il a survécu à la guerre. Et il a dit qu'il ne pouvait malheureusement pas le remercier. En plus, il ne pouvait pas parler. Donc, il l'a remercié simplement d'un regard. Et il a dit, mais moi, toute ma vie, je ne pourrais que parler de ce que cet homme a fait pour moi. Le témoignage part du cœur. Je vous propose maintenant 5 minutes de discussion autour de 2 questions avant de lire un texte biblique et de le méditer ensemble. Voilà, discussion avec votre voisin, votre voisine de chaise. Dans une journée, combien de fois est-ce que je pense à Jésus? Quelle place a-t-il dans les choix que je fais? Parce que tout ça, c'est lié en fait à notre témoignage et à ce qu'on a à dire aussi à ceux qui nous entourent. Et puis, comment évaluerais-je mon témoignage? Très mauvais, mauvais, plutôt bon, très bon, excellent. Et dites pourquoi? Voilà, je vous laisse 5 minutes, vraiment, prenez le temps de discuter autour de ces quelques questions. Voilà. Ben voilà, les amis. Pas évident, je pense, de répondre à ces questions, mais je vois qu'il y en avait beaucoup de choses à se dire. Donc, c'est super parce qu'on va pouvoir aussi poursuivre aussi notre temps de discussion encore après. C'est peut-être pas évident de se poser la question, hein, est-ce que mon témoignage est bon, etc. On aimerait avoir aussi le retour, peut-être, le retour des autres. Qu'est-ce qu'eux en pensent ? Qu'est-ce qu'ils pensent des chrétiens aussi en général, hein ? Quel témoignage nous avons ? Je vous invite à la lecture maintenant d'un texte biblique. Alors vous verrez quel est le lien aussi avec ce texte et notre témoignage. Il s'agit du texte de 1 Pierre au chapitre 3, les versets 13 à 17. Et c'est dans la Nouvelle Bible en français courant que le texte s'affiche. « Qui vous fera du mal si vous êtes plein de zèle pour le bien, même si vous aviez à souffrir ?» Parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler, mais consacrez dans votre cœur le Christ comme Seigneur. Tenez-vous toujours prêt à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que ceux qui insultent votre bonne conduite de chrétien est à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. » On le perçoit bien dans ce passage, dans le ton de ce passage, Pierre écrit à des chrétiens qui sont sous pression, dans un contexte hostile, qui font face à une adversité coriace jusqu'à la persécution. Et il suffit de regarder le vocabulaire dans ces quelques versets que Pierre utilise. Il parle de souffrance, il parle de crainte, il parle d'insulte, il évoque le fait de devoir se défendre et même d'accepter de souffrir. Tout cela décrit bien le contexte difficile dans lequel se trouvait et hostile dans lequel se trouvaient les premiers destinataires de l'épître de Pierre. Ce n'est certainement pas notre contexte général en France. Aujourd'hui, malgré une méfiance qu'on sent quand même monter à l'égard des religions en général, la liberté de culte et de conscience est garantie dans notre pays. La méfiance peut être quand même assez forte envers les religions, mais on ne risque pas la persécution à cause de notre foi en France. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile de s'affirmer en tant que chrétien et d'avoir un témoignage clair. On peut facilement s'attirer des réactions plus ou moins sympathiques, des fois peut-être moqueuses, particulièrement dans certains contextes professionnels, associatifs ou familiaux. On a parfois du mal à assumer et à affirmer notre foi, peut-être même dans notre famille, parmi ceux qui nous sont les plus proches, parce que beaucoup ne comprennent pas ce qu'est la foi, notre démarche. Ils contestent peut-être notre cheminement spirituel, voire pire encore, des fois nous pouvons être considérés comme un traître qui trahit l'éducation familiale reçue. On peut être vu comme un illuminé qui s'est laissé embarquer dans une secte. Ce n'est pas de la persécution à proprement parler, mais c'est bien une épreuve pour notre foi. Je me souviens d'un étudiant à la faculté de Vaux-sur-Seine qui était issu d'une famille très catholique, catholique traditionnelle, et il avait fait le choix de quitter le séminaire en fait pour se former en théologie à la faculté de théologie évangélique, et il avait eu des retours assez fort de sa famille, et un frère même lui avait dit « Je préférerais même que tu abandonnes la foi plutôt que tu deviennes protestant. » Ce n'est pas de la persécution, à proprement parler, mais les incompréhensions de personnes qui sont proches sont des choses difficiles à vivre et des épreuves pour notre foi et notre témoignage. La grande question est comment se comporter en tant que disciple de Jésus-Christ, dans un contexte qui parfois peut être hostile ou difficile. Faut-il fuir, se protéger, se taire, voire cacher sa foi? Il semblerait que l'apôtre Pierre a une réponse assez claire à ce niveau-là. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Alors c'est peut-être facile à dire, comment faire? Pierre se fait plus précis et le premier point qu'il aborde, c'est qu'il s'agit de consacrer dans notre cœur Christ comme Seigneur et de se tenir prêt à se défendre, mais pas n'importe comment, on le verra plus tard. C'est intéressant de noter que sur le fait que Pierre insiste ici d'abord, avant de parler du témoignage comme quelque chose que l'on fait, d'abord comme qui l'on est. Hein. Tout part du cœur. Il s'agit de, dans certaines traductions, consacrer donc dans notre cœur le Christ comme Seigneur. C'est l'attitude de notre cœur qui est primordiale. Il ne va pas donner de technique, Pierre, d'évangélisation, pas de trucs, de méthodes infaillibles pour influencer ou pour convaincre, pas d'arguments non plus incontestables pour clouer le bec au contradicteur. Il va dire au contraire que Jésus-Christ soit le Seigneur dans votre cœur. C'est une attitude. Et puis, il va un peu plus loin après en disant que cette attitude doit être marquée de douceur et de respect. Et on va tout simplement s'arrêter sur ces deux aspects. Le premier aspect, donc consacrer dans notre cœur le Christ comme Seigneur. Et j'ai gardé ici la formule dans la traduction de la NBS, on pourrait traduire aussi sanctifier, comme le font certaines autres traductions, sanctifier dans votre cœur le Christ, le Seigneur. Alors ça peut paraître un peu surprenant au premier abord, alors qu'il est question de notre témoignage dans le monde, de notre attitude en tant que chrétien auprès de ceux que nous côtoyons. Pierre nous invite d'abord à nous centrer non pas sur les autres, mais dans un premier temps sur nous-mêmes, sur notre cœur, et d'y consacrer le Christ comme Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme ça que c'est écrit dans certaines Bibles assez littérales, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, en français, quand on parle du cœur, on imagine plutôt le siège des émotions ou des sentiments. Dessiner un cœur, c'est dire à quelqu'un qu'on l'aime. Dans la Bible, le cœur est une notion qui, bien sûr, comprend cette notion-là d'émotion, de sentiment, d'amour, d'affection, mais c'est quelque chose qui va largement au-delà encore. C'est le siège des émotions, positives ou négatives, mais c'est aussi le siège de la volonté, le cœur. Là où se prennent les décisions, où naissent les intentions et les motivations. On lui attribue d'ailleurs au cœur, dans la Bible, des fonctions qu'on attribue plutôt aujourd'hui au cerveau, comme l'intelligence, l'imagination ou la mémoire. Tout cela était, dans la culture des temps bibliques, associé au cœur. En un mot, on peut dire que dans la Bible, le cœur, c'est le centre de notre personne, un centre invisible, le centre qui va contrôler tout notre être intérieur. C'est ce qui en nous ne se voit pas, à l'inverse du corps. La Bible appelle ça aussi, dans certains passages, l'homme intérieur ou l'être intérieur. Ce qui est caché et qui pourtant définit qui nous sommes, notre personnalité, nos aspirations et nos motivations profondes. Parler du cœur, c'est parler de qui nous sommes. Consacrer dans notre cœur le Christ comme Seigneur, c'est donc réserver à Jésus-Christ une place de choix dans notre cœur, c'est lui réserver la première place, une place à part dans notre vie intérieure, le placer au centre de nos pensées, de nos intentions, de nos aspirations, de nos motivations, de nos préoccupations. C'est être en relation et en dialogue avec lui, dans une forme de prière continue. Vous savez que Paul dit « prier sans cesse », alors ça ne veut pas dire « parler sans cesse », ça veut dire être dans cette attitude prête à recevoir. C'est apprendre à penser notre vie, penser le monde, penser les autres comme Jésus-Christ. Et c'est là que tout commence, dans le cœur. plus nous serons proches du Seigneur, plus nous serons aptes à nous conduire dans notre monde en tant que témoins de Jésus-Christ. Et quel que soit, j'ai envie de dire, le contexte, qu'il soit difficile ou pas, c'est la qualité de notre proximité avec le Seigneur qui jouera. On peut élaborer toutes les stratégies possibles pour annoncer l'Évangile, toutes les théories imaginables de présence et d'engagement dans le monde. Si tout cela ne commence pas personnellement dans notre cœur, c'est-à-dire dans la proximité avec Dieu, ça ne servira à rien. On va se tromper, on va aller sur des fausses pistes et peut-être on va même faire des efforts pour être un témoin, alors que c'est Dieu et le Saint-Esprit en nous qui nous rend témoins. Réserver dans notre vie intérieure une place à part pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi la promesse que toutes les adversités et toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer seront relatives. Personne ne peut nous enlever ce qu'on vit dans notre vie intérieure. Face aux oppositions que nous allons rencontrer, eh bien, nous avons Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, au cœur de notre vie. Il faut qu'il soit au cœur de notre vie. Alors, cultiver notre vie intérieure dans une relation de confiance avec Jésus-Christ ne nous replie pas sur nous-mêmes, ça ne nous coupe pas pour autant des autres. Si l'espace d'un instant, il faut peut-être tourner les yeux vers son propre cœur, vers soi-même pour s'examiner, c'est ensuite pour être en relation avec les autres, parce que ça va modifier notre façon d'être et de vivre dans ce monde. Quand il s'agit de répondre de notre espérance ou de témoigner de notre foi aux autres, que ces autres soient agréablement surpris par notre foi ou au contraire hostiles, c'est de notre cœur que viendra notre témoignage. Et pour l'apôtre Paul, un bon témoignage est rendu avec deux mots qu'il nous donne dans ce texte, avec douceur et respect. Donc il ne s'agit pas, évidemment, avec ce mot de douceur, de vouloir passer en force. Et le respect, c'est une partie de l'amour du prochain, le respect. Une question qu'il est bon de se poser aussi, lorsque nous avons à cœur justement de témoigner de notre foi à quelqu'un, mais c'est comment, si moi je n'étais pas encore dans la famille de Dieu, j'aimerais qu'on m'en parle. Comment j'aimerais qu'on m'en parle? Et peut-être que là, on aura le respect nécessaire. La douceur et le respect, encore une fois, sont deux attitudes de cœur et qui contrastent d'ailleurs avec le contexte des premiers destinataires de l'épître de Pierre, puisque ce contexte était marqué par l'hostilité et la violence de ceux qui s'opposaient aux chrétiens, des fois jusqu'à la persécution. Et ce contraste est bien un écho aussi à ce commandement radical de Jésus qui invite ses disciples à aimer leur prochain et même à aimer leurs ennemis. La douceur, promouvoir la douceur aujourd'hui. On est peut-être un petit peu à contre-courant, sans doute, si on veut mettre en avant la douceur. Est-ce que ce n'est pas plutôt la force qui veut être mise en avant aujourd'hui? Nous vivons dans un monde, je pense, quand même plutôt agressif et qui cherche beaucoup à provoquer l'affrontement, le clash, même à la télé. Certains débats qui pourraient se passer de façon très paisible sont comme par une pulsion du cœur emmenés sur des terrains où finalement ça devient des affrontements entre personnes. On cherche des fois, quelquefois, l'affrontement, le clash, on a besoin d'évacuer peut-être, je ne sais pas, certaines colères, une certaine tension intérieure, on n'a pas la paix, et c'en est bien une preuve. Quand on veut débattre, échanger, il est rare d'observer cette qualité de la douceur. Aujourd'hui, on est souvent dans l'opposition, la polarisation, on doit aussi choisir son camp. Qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela, etc. Il faut presque avoir un avis sur tout. On est soit pour, soit contre, et souvent la nuance, ni pour ni contre, n'a que peu de place. Il faut un vainqueur et un perdant, et dans ce contexte, la douceur est parfois perçue comme une faiblesse et la nuance comme une mollesse. Assumons à ce titre-là d'être à contre-courant. À la suite de l'exhortation de Pierre, entrons en résistance par la douceur. Choisissons la nuance et la modération. Quant au respect, vous avez peut-être un autre terme aussi dans votre version de la Bible. C'est ce terme grec qui est traduit par crainte aussi, avec douceur et crainte, qui peut évoquer ce terme la peur, mais qui ici va évoquer le respect. Associé à Dieu, la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Et beaucoup de commentateurs, d'ailleurs, estiment que Pierre nous invite ici à faire preuve de respect envers Dieu dans notre témoignage. Évidemment, aussi envers notre prochain. Peut-être que Pierre, d'ailleurs, joue ici avec les nuances, justement, de ce terme « crainte ». Pour parler de cette juste attitude de respect de l'autre, y compris de celui qui va être notre adversaire. Au verset 14, on aurait littéralement la phrase suivante, « Ne soyez pas effrayés de leur peur. » Ne soyez pas effrayés de leur peur. La peur de qui ? Ben, la peur de ces personnes qui pouvaient persécuter les premiers chrétiens. Il y a une peur qui va créer la paralysie, mais il y a une peur qui va donner lieu au plus grand des respects. Et c'est de cette crainte-là, de cette peur-là, qu'il est légitime de parler à propos de notre texte. C'est le cas dans notre relation à Dieu. Il ne s'agit pas d'une peur qui va nous écraser, qui va nous paralyser, mais d'un profond respect pour la personne de Dieu, une posture aussi intérieure, d'humilité, une juste posture d'humilité et de soumission à Dieu. Donc c'est avec la douceur finalement, ça va avec la douceur, le respect aussi. Ça doit caractériser notre attitude, notre témoignage envers les autres. Est-ce que le témoignage des évangéliques en France est perçu comme quelque chose de doux et de respectueux ? C'est une question que je nous lance et bien sûr on peut se la poser à titre personnel. Le respect, on en entend parler souvent. D'ailleurs, on en parle comme un droit. J'ai le droit au respect. C'est souvent comme ça qu'on en parle. On en parle moins en tant que devoir. Je dois le respect. Le seul respect qui compte, c'est celui que je mérite, celui que les autres me doivent. Mais le respect dont Pierre parle ici, c'est le respect que nous devons aux autres et à Dieu. Même si les autres ne sont pas d'accord avec nous, même si on pourrait, sur certains plans, peut-être les qualifier d'adversaires. Même si l'autre ne nous respecte pas, nous lui devons le respect. Ce n'est pas parce que l'autre se permet d'enfreindre cette règle du respect que nous avons le droit, à notre tour aussi, de lui rendre l'appareil. Ça ne nous donne pas le droit de le faire. Nous sommes aussi en faute si nous répondons à l'irrespect par l'irrespect. Le respect ne peut pas se manifester dans l'agressivité. Il y a un lien entre la douceur et le respect. Faire preuve de douceur, c'est une forme de respect pour l'autre. Être doux envers celui qui est agressif, respecter celui qui ne nous respecte pas, c'est agir comme Jésus l'a fait. Comme Jésus nous y exhorte aussi, comme il invitait ses disciples, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire à aimer leurs ennemis. Alors finalement, ce texte nous dit quand même pas mal de... En quelques mots, il nous dit pas mal de choses sur notre témoignage individuel et collectif. Et j'en arrive déjà à quelques mots de conclusion. Face à l'hostilité où l'agressivité, le réflexe naturel, serait sans doute de fuir ou d'affronter. Ça dépend des caractères. Mais Pierre nous invite à une autre voie. Ne pas fuir, mais tenir ferme en étant prêt à répondre de notre foi. Et pour être prêt, il faut avant tout réserver une place au Seigneur Jésus dans notre vie intérieure, une place à part. Et ne pas répondre non plus à l'hostilité par l'hostilité, mais avec douceur et respect. C'est un défi qui va à l'encontre de nos inclinations naturelles, mais c'est la seule façon d'agir si nous voulons être des imitateurs de Jésus-Christ. Et c'est pour cela d'ailleurs que Pierre parle encore de ce passage d'avoir une bonne conscience. Avoir une attitude caractérisée par la douceur et le respect, c'est agir à l'image de notre Seigneur et modèle, Jésus-Christ. C'est un signe que le Seigneur occupe bien une place à part dans notre vie intérieure. Alors peut-être qu'avec le témoignage aussi, il est facile d'avoir mauvaise conscience, hein, puisque le texte nous parle d'avoir une bonne conscience. Peut-être on se dit on n'en fait pas assez, on va se culpabiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas appelé à convaincre ou convertir notre prochain. C'est l'affaire de Dieu et de chacun et chacune devant Dieu. Mais nous sommes appelés à être témoins de notre foi, ou comme le dit Pierre, prêts à répondre de notre foi. Face à ceux qui nous demandent de rendre compte de notre espérance, nous sommes appelés à refléter le Seigneur Jésus. Plus il aura une place à part dans notre vie intérieure, plus nous reflèterons dans notre quotidien, avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec nos proches, le Seigneur Jésus. C'est lui qui agira en nous et par nous. Alors Seigneur, viens faire de nous des témoins pleins de douceur et de respect. Amen.